province orientale, 113 morts et plusieurs disparus, c'est le bilan provisoire du naufrage d'un bateau le week-end dernier sur le lac Albert. Les autorités de la chefferie de Watalinga au nord Kivu, d'où sont originaires la majorité des victimes, indiquent que jusqu'à ce jour, aucune assistance n'est apportée ni aux familles sinistrées, ni aux rescapés. Comment analyser cette situation et que faut-il pour prévenir ce genre de catastrophe? Pour en parler, nous recevons Daniel Boulungidi, conseiller fluvial et lacustre du ministre des Transports et voie de communication du gouvernement central. Monsieur le conseiller Boulungidi, bonsoir.
Bonsoir.
Honorable John Tinanzabo, député national de l'opposition et président intérimaire du parti politique Union des Patriotes Congolais UPC, il est élu du territoire d'Irumu en Ituri, en province orientale. Honorable Tinanzabo, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Alain, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Al Kitenge, il est analyste et stratège. Monsieur Kitenge, bonsoir à vous également.
Bonsoir, bonsoir à l'audience.
Bonsoir une fois de plus et merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Plus d'une centaine de morts et plusieurs disparus, c'est le bilan provisoire du naufrage sur le lac Albert d'un bateau qui ramenait des réfugiés congolais de l'Ouganda samedi dernier. Des voix s'élèvent pour dénoncer l'indifférence du gouvernement congolais face à ce drame. Si les autorités de la chefferie de Watalinga au nord Kivu indiquent qu'aucune assistance n'est apportée ni aux familles sinistrées, ni aux rescapés, la société civile de l'Ituri appelle le gouvernement à décréter un deuil national par respect à la mémoire des victimes. Jean-Claude Loki.
Le bilan de ce matin fait état de 113 corps retrouvés. C'est un officier de renseignement ougandais basé dans la zone qui le rapporte à Radio Okapi. Des nouveaux corps en décomposition avancée sont inhumés en Ouganda. La chefferie de Watalinga au nord Kivu, d'où sont originaires la majorité des victimes, s'organise sans moyens conséquents pour enterrer les corps ramenés au Congo. Mwami Sambili appelle à l'assistance aux familles des victimes.
C'est seulement au niveau local que nous nous sommes forcés pour envoyer une délégation à prendre les corps au niveau de l'Ouganda et nous avons organisé les obsèques. Maintenant, voilà, on n'a pas les moyens maintenant de soulager cette population-là.
La société civile de l'Ituri dénonce l'indifférence du gouvernement face à ce drame. Maître Jean Bosco Lalo, président de cette structure.
Nous pensons qu'il va falloir quelques heures pour qu'il se prononce par rapport à l'assistance apportée aux familles des disparus. Notre gouvernement, quelque part, doit se sentir aussi responsabilisé de ce qui est arrivé. Vous pouvez me déclarer Dieu. On ne peut pas laisser mourir plus de 150 personnes de façon inaperçue, ce sont des humains.
Contacté, le ministre national des Affaires sociales et humanitaires, Charles Nawej Mundele, promet de se prononcer dans les heures qui suivent. Bounia, Jean-Claude Loki, Radio Okapi.
Merci Jean-Claude Loki. Le gouvernement congolais est très sensible à ce qui est arrivé aux réfugiés congolais sur le lac Albert. Nous compatissons avec les familles éprouvées, demandons rescapés et tous ceux qui veulent rentrer d'être calmes et d'attendre un retour organisé. C'est la déclaration de l'ambassadeur de la RDC en Ouganda, cinq jours après le naufrage d'une embarcation motorisée ougandaise sur le lac Albert. Plus d'une centaine de réfugiés congolais ont trouvé la mort dans cet accident. Sifa Maguru.
C'est confiant à Radio Okapi ce mercredi, Jean-Charles Okoto indique que dispositions utiles ont été prises pour éviter ces genres de drames dans l'avenir. Selon lui, les retours des réfugiés, c'est tout un processus qui nécessite un accord commun entre toutes les parties, notamment le HCR, l'Ouganda et la RDC.
Pour des précautions à prendre, je crois que c'est ça qui est plus important, madame. Nous-mêmes, nous avons été très conscients, nous présentons de condoléances aux familles éprouvées. Nous avons demandé à ce que la population ne puisse plus se déranger et d'être patiente parce qu'il est vrai que chacun veut rentrer chez soi, mais il faut suivre la voie normale.
De son côté, le président de la diaspora congolaise en Ouganda déplore les conditions de vie des Congolais dans les camps en Ouganda, ce qui, selon Bahati Kayungu Désiré, est à la base de leur empressement pour rentrer au pays. Il appelle les autorités à faciliter leur retour volontaire. Lui qui se trouve encore à Bundibujo, localité ougandaise proche du lieu du drame, avance un bilan de 113 morts, 49 disparus et 47 rescapés. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Merci Sifa Maguru. Daniel Boulungidi, vous êtes conseiller fluvial et lacustre du ministre des Transports et voies de communication du gouvernement central. Dites-nous, qu'est-ce s'est-il réellement passé?
Selon les informations que nous avons reçues de autorités de la province orientale, notamment le chef de division provinciale du transport, ainsi que le commissaire fluvial, qui est celui qui est juste à côté du port de Toroko, c'est que jusque-là, on n'est pas encore arrivé à identifier effectivement les causes qui ont produit cet effet, cet accident. Mais s'il faut effectivement les identifier, ils doivent être soit un problème de l'état technique de l'embarcation, soit ça doit être un problème manque de balisage de ce réseau sur la calbaire, soit un problème de responsable, donc des personnels navigants qui n'ont pas toutes les qualifications nécessaires pour pouvoir assurer la navigation, soit aussi un problème de responsable de l'administration de transport au niveau de l'Ouganda, parce que l'accident s'est passé au niveau de l'Ouganda. C'est qu'à ce niveau, jusqu'à ce jour, nous avons le gouvernement à pouvoir décider de pouvoir envoyer une commission mixte qui va arriver sur place, composée du ministère des Transports ainsi que du ministère des Affaires Sociales. Pour le ministère des Transports, c'est juste pour essayer d'identifier quelles sont les causes qui ont été à la base de cet accident, qui peuvent être dénombrées au niveau 4 niveaux. Et au niveau du ministère des Affaires Sociales, c'est compatir avec la population endeuillée. Mais le gouvernement n'est pas resté indifférent, parce que déjà même nous avons lancé, déjà il y a un communiqué officiel qui a été déjà lancé sur la presse pour compatir ensemble avec toutes les familles qui ont été éprouvées. Donc à ce niveau, c'est toutes les deux ministères sont s'emploient déjà pour arriver sur place pour essayer de voir identifier toutes ces causes et compatir ensemble avec la population endeuillée.
Alors, parce que vous parlez de cette compassion, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Emmanuel Miwe de Bukavu au Sud Kivu. Alors que sous d'autres cieux, de telles pertes en vie humaine occasionneraient un deuil national avec message de condoléances aux familles éplorées, chez nous les autorités agissent comme si de rien n'était. Cela ne témoigne-t-il pas l'incapacité de nos autorités qui minimisent les imprévus dans leur budget? Chères autorités, si vous manquez de moyens pour accomplir votre devoir, fournissez juste un effort pour donner même un message de condoléances.
Vous avez parlé d'un communiqué officiel du gouvernement qui présentait toute sa compassion à ses familles, mais n'est-ce pas venu trop tard, monsieur le conseiller? Même la réaction de l'ambassadeur, c'est pratiquement 5 jours après qu'elle arrive. Le gouvernement n'a-t-il pas été indifférent?
Le gouvernement travaille pour la population. Il ne travaille pas pour les bêtes, mais le budget qui est voté, c'est juste pour essayer de gérer la population. Et pour un drame comme celui-là, on ne pouvait pas rester indifférent. Il faudrait déjà essayer de voir, circonscrire le problème, parce que cela s'est passé en Ouganda, et que le gouvernement se trouve au niveau de la RDC, il fallait déjà, à partir de l'Ouganda, à partir de l'ambassade qui est au niveau de l'Ouganda, avoir toutes les dispositions possibles pour voir comment il fallait agir de façon à ce que nous puissions matérialiser les actes qui concrétisent la présence du gouvernement. Nous avons des autorités provinciales qui sont au niveau de la province orientale, qui travaillent de commun accord avec notre ambassade au niveau de l'Ouganda. C'est à ce niveau-là que cette synergie est en train d'être déployée pour que ont plus impliqué directement le gouvernement central.
Alors, les causes, vous dites qu'elles ne sont pas encore bien élucidées, le temps que cette commission n'arrive sur place pour tirer tout au clair. Mais il y a aussi un problème au niveau du nombre de passagers qui auraient été embarqués. Il y a des sources qui parlent de 300 passagers, d'autres qui parlent de 150, 250. Quel est le véritable chiffre, si vous avez une idée?
Nous ne pouvons pas encore donner le véritable chiffre parce que, en fait, tous ces chiffres-là, ça dépend de la structure ou bien l'entité qui est tentée de la communiquer. Il faudrait arriver à voir réellement, faire la vérité de fait, constater réellement le nombre de disparus, constater, savoir d'abord au niveau de l'embarcation, au niveau du manifeste qui se trouvait sur l'embarcation, combien y avait-il dans l'embarcation, et puis identifier ceux qui ont été repêchés, les corps qui ont été repêchés, identifier ceux qui sont des rescapés. C'est à ce moment-là qu'on peut arriver à établir un bilan beaucoup plus concret. Mais pour le moment, c'est les chiffres qu'on peut avancer, parce que devant un accident comme celui-là, c'est tout le monde qui peut crier pour dire, écoutez, voilà, il y a eu 100 morts, 200 morts, 500 morts. Mais en réalité, vous trouverez qu'on ne retrouve que 10 corps. Mais si on dispose du manifeste de l'embarcation qui a repris pratiquement tous ses passagers et qu'on constate le rescapé, on peut facilement à ce moment-là donner un chiffre qui peut tendre vers la réalité. Mais pour le moment, nous ne connaissons pas le manifeste, il avait combien de passagers sur l'embarcation. Nous n'avons pas ces documents, et ça c'est l'administration des transports qui a su de pouvoir le faire. Et ensuite, nous devons savoir combien en taux de pêchés et combien de rescapés on a découvert. Et c'est à ce moment-là peut-être qu'on peut établir un bilan beaucoup plus approximatif. Surtout que aussi, même ces déplacements de la population à bord de cette embarcation. Nous n'avons pas toutes les données nécessaires en ce qui concerne des informations sur cette embarcation, donc il nous est difficile de pouvoir établir un bilan. C'est donc il faut qu'il y ait de la spéculation, c'est normal.
Et donc il faut préciser, parce que nous avons reçu beaucoup de réactions des auditeurs qui nous posaient la question sur la responsabilité du ministère du ministère congolais des transports, et donc il faut dire que tout ça s'est passé en Ouganda.
Tout ça s'est passé en Ouganda. Ce n'est pas au niveau de la RDC. L'embarcation a quitté le port de Toroko, qui se trouve en Ouganda, pour commencer à descendre. Qu'il a pris pratiquement tous ses passagers. Combien ils étaient? Est-ce qu'on a respecté les conditions de navigabilité? Est-ce que l'embarcation était dans des conditions techniques adéquates pour pouvoir naviguer? Est-ce que le personnel navigant qui était à bord, ils avaient toute la qualification nécessaire pour pouvoir assurer cette embarcation? Ce sont toutes ces questions qui doivent se poser autour de ces drames pour comprendre réellement quelle est la cause qui a produit cet effet.
Honorable John Tinanzabo, vous êtes député national de l'opposition et président intérimaire du Parti politique Union des Patriotes Congolais UPC. Vous êtes élu du territoire d'Irumu en Ituri, en province orientale. Comment vous expliquez, vous analysez cette situation?
Monsieur Alain Rung, bonsoir à tous les auditeurs. Je l'ai dit avant, je salue encore la radio Okapi pour le travail qu'il est en train d'abattre. Vous savez, ça fait 12 ans que vous faites un travail formidable et vous ouvrez ce genre de débat. C'est très important. Je vous félicite pour ça. Mais j'observe aussi, je rends hommage à tous les disparus, nos compatriotes qui ont péri, n'est-ce pas, dans ce drame. Une centaine de morts, c'est beaucoup. Je prie Dieu le Père à faire reposer leurs âmes en paix. Mais je suis surpris, je suis en face de moi, le conseiller du ministre, c'est-à-dire le responsable de l'État congolais, qui gère ce secteur, et qui, à suivre ce qu'il dit, m'inquiète, et je sens comme si nous sommes dans un pays où le ministère des Transports et Communications n'a aucun sens. Le conseiller du ministre parle de l'accident qui s'est passé en Ouganda. Non, l'accident ne s'est pas passé en Ouganda. L'accident a eu lieu sur le lac Albert. Le lac Albert, c'est le lac commun à l'Ouganda et au Congo. Ce sont des réfugiés qui ont fui la guerre, ils ont voulu sauver leur peau, n'est-ce pas, pour ne pas périr sous les balles qui crépitaient à l'époque dans le Kivu. Et ces gens-là ont fui en Ouganda. Je pense que Radio Okapi avait communiqué au moment donné la plainte des réfugiés congolais en Ouganda. Allez, Rune. Je pense que vous vous souvenez. Parce que je suis un fervent auditeur de Radio Okapi. Et quand ces gens-là décident de rentrer au pays, et quand je suis Jean-Charles Léokoto, qui est l'ambassadeur du Congo en Ouganda, qui semble parler en minimisant un peu le fait ou le drame, je m'explique. L'ambassadeur du Congo en Ouganda dit que il faudrait que les Congolais, n'est-ce pas, attendre des dispositions utiles pour se déplacer, pour revenir au pays.
Mais n'a-t-il pas raison honorable pour éviter ce genre de drame, évidemment?
Mais qu'est-ce qu'il dit? Les dispositions utiles, qui va faire attendre aux Congolais? Mais ce sont des gens qui ont fui la guerre. Ils se retrouvent dans un camp. Ils souffrent. Ils n'ont rien à manger. Ils veulent rentrer chez eux. Ils apprennent qu'il y a une lueur de paix chez eux. Ils veulent rentrer. Mais l'ambassadeur dit aujourd'hui, au micro, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il a déjà rencontré, s'il avait rencontré ces Congolais. Il les dit aujourd'hui parce qu'ils sont morts. Ils sont déjà morts. Hein? Il dit aujourd'hui, il fallait qu'ils attendent. Non, écoutez, ça c'est de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité. Vous remarquez avec moi, M. Alain Rung, que le gouvernement congolais fait 5 jours sans réaction. Moi, j'ai toujours suivi M. Lambert Mende sur des épiphénomènes, de petits événements, de petits problèmes, réagir. Appeler les journalistes de manière musclée, de conférences de presse. Mais qu'est-ce qui l'empêche? Est-ce que le gouvernement s'est réuni en conseil des ministres pour constater ce drame et mettre un comité de crise, n'est-ce pas, pour gérer les conséquences? Parce que il y a des victimes, il y a des rescapés, il y a des corps qu'on continue à extraire du lac, qu'il faut enterrer. Vous avez suivi le chef de Batalinga qui se plaint, il n'a aucun moyen. La plupart, ce sont les habitants de la chefferie de Batalinga. Mais il y a aussi les habitants de l'Ituri. Vous savez que le lac Albert, ça c'est la route entre l'Ituri et l'Ouganda. C'est la route fluviale. Et constatez avec moi, Léon, qu'aucun service sérieux n'est organisé sur le lac Albert. C'est du tohu-bohu là-bas. Il y a les forces navales qui ne font que rançonner la population. Les plaintes, on les a eues du territoire d'Irumu, Djougou et Mag. Je me souviens quand on était au Koukis, au territoire de Mag la fois passée, tout le monde se plaignait des travaux ou des exactions commises par ces forces. Mais ces forces devaient aussi avoir la responsabilité de sécuriser la population sur nos eaux territoriales.
Et donc vous attribuez ce drame à tout cet ensemble-là.
C'est du méli-mélo, c'est du désordre, c'est de la désorganisation. Les services de transport n'est pas structuré. Ben écoutez, ce n'est pas seulement sur le lac Albert. Il y a eu des noyades sur le fleuve. On parle de balisage. Mais ils ont quitté le matin. Quel balisage? C'est un problème de météo. C'est peut-être un problème de surchargement de leur embarcation. Et là aussi, allez, Rung, avant que je termine, les HCR, qui s'occupe des réfugiés, a aussi des responsabilités. Voilà.
Malheureusement, nous n'avons pas le HCR dans cette émission pour nous donner plus de précisions. Peut-être qu'on les aura prochainement. Al Kitenge, vous êtes analyste et stratège. Pour commencer, parlons un peu de la gestion de ce drame. L'honorable Tinanzabo a fustigé le silence du gouvernement. On voit quand même dans d'autres pays, lorsqu'il y a des compatriotes qui meurent dans un avion ou dans un drame, il y a des pays entiers qui se mobilisent quelquefois pour 2 ou 3 personnes seulement. Mais là, comment vous analysez d'abord, pour commencer, la gestion de ce drame?
Alain Hirung, merci beaucoup. Mais moi, je crois que ma première pensée va à l'endroit des membres des familles de ces personnes disparues et des victimes de cet accident. Et je crois simplement que dans l'exercice que nous faisons aujourd'hui, il y a un sens de responsabilité énorme que nous devons avoir et qu'il nous faut éviter de politiser la question. Il s'agit là de regarder comment le pays fonctionne en temps réel et sur toute l'étendue de la République. Vous entendez des responsables de chefferie dire qu'ils n'ont aucun moyen pour réagir. Mais ça, c'est leur quotidien, c'est leur vie chaque jour. Ils vivent dans cette démunition. Mais aujourd'hui, nous parlons du lac Albert. C'est exactement la même chose qui se passe dans les mines artisanales. C'est exactement la même chose qui se passe sur le boulevard lorsque nous avons des véhicules qui ne répondent à aucune norme qui circule. C'est exactement la même chose qui se passe lorsque nos populations sont frappées de choléra au Katanga. Il faut reconnaître que le défi social de la République démocratique du Congo est énorme face aux moyens dont nous disposons. Moi, je le dis de manière tout à fait simple, ce n'est pas une question d'individu, ce n'est pas une question d'un tel personnage qui est ministre ou d'un tel autre personnage qui est député.
La situation du pays est tellement catastrophique, est tellement précaire, que la classe politique n'a jamais réellement présenté au peuple congolais le véritable défi du pays. Ce qui fait que très malheureusement, quels que soient les résultats que nous faisons, ils sont tellement petits que chaque fois qu'une catastrophe arrive, nous paniquons. Et très malheureusement, lorsque nous paniquons, nous commençons à chercher des boucs émissaires, et ça c'est globalement irresponsable de notre part. Je pense que cette occasion devrait être la bonne pour que nous puissions en mesure de nous rendre compte de dans quel état de précarité se trouve la République démocratique du Congo, et de quelle manière nous pouvons nous organiser pour que, à une échéance respectable, nous soyons en mesure de donner des réponses aux urgences, mais également surtout de planifier la République. Lorsque vous regardez la manière dont nous réagissons sur le lac Albert, de quelle capacité nous disposons pour être en mesure de secourir les gens qui sont en difficulté? La réponse est zéro. Mais ce que nous disons là-bas, mais c'est exactement ce que nous avons eu sur Maïndombe, c'est exactement ce que nous avons dans les mines artisanales, c'est exactement ce que nous avons lorsque les populations sont frappées de choléra dans le Katanga. Il ne faut pas penser que la situation à laquelle nous sommes en train de faire face aujourd'hui est exceptionnelle ou est isolée. Non, c'est ça l'état réel de la République démocratique du Congo à l'Aïrou. Et je pense qu'il est important que les Congolais prennent conscience de où nous sommes, qui nous sommes et de quelle manière nous sommes censés vivre.
Alors, vous évoquez un élément important, Alki Tengue, la réponse aux urgences. On a quand même connu plusieurs drames dans ce pays, mais apparemment on n'en tire pas des leçons.
Je ne sais pas pourquoi vous faites la sourde oreille. Mais je veux dire simplement que la République démocratique du Congo n'a pas les moyens de sa politique. Nous sommes étendus sur 2 345 000 km². Nous sommes à 70 millions de personnes. Pour 8 milliards de dollars, même un prestidigitateur ne s'en sortira pas. Il est important qu'on se rende compte que si nous désirons avoir la capacité de réponse logique et à même de donner des réponses viables, nous devons déterminer le mécanisme à mettre en place pour que la République ait les moyens de le faire. Il s'agit de se rendre à l'évidence. Nous devons changer le paradigme de gestion de ce pays, et ce n'est pas qu'une question politique ou une question de politique. C'est une question de société, et il est important que les Congolais se rendent compte que nous sommes en danger permanent. Moi, je dis toujours une chose simple. À supposer que nous ayons une épidémie de choléra dans la ville de Kinshasa, parce que nous avons des poussées de choléra de temps en temps, mais on ne s'en sortira pas. Nous n'avons pas les moyens de réagir. Ce que nous sommes en train d'avoir comme situation sur le lac Albert devrait nous interpeller sur la précarité dans laquelle se trouve la République. Il est important qu'on se rende compte que nous devons très rapidement ouvrir les yeux sur ce qui est réel, le vrai défi et le vrai danger qui nous guette chaque jour qui passe.
Alors, Alki Tengue, vous soulignez aussi que la classe politique, mais le Congolais en fait n'a pas encore pris la vraie mesure des défis qui attendent, qui guettent ce pays. Je m'excuse pour les mots, sommes-nous inconscients ou naïfs?
Non, les politiciens sont dans leur rôle. Leur rôle, c'est d'assurer que les gens les prennent au sérieux au quotidien, et très malheureusement, des fois, cela occulte leur capacité à dire la vérité aux Congolais. Et c'est là que se joue le rôle de la société civile et des scientifiques, c'est d'être en mesure de donner des données intangibles aux gens. Je donne un certain nombre de données tout à l'heure. L'étendue de notre République, c'est 2 345 000 km². Nous sommes à 70 millions de personnes, nous n'avons que 8 milliards de dollars. C'est insuffisant, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Il faudrait qu'on s'arrête à un moment donné pour que de manière exceptionnelle, on trouve les mécanismes pour assurer une décentralisation sérieuse et que les gens qui sont à la base aient la capacité de réponse locale. On ne peut pas gérer une République comme la nôtre en étant à Kinshasa tout simplement et en concentrant tous les moyens ici. La vérité, c'est que les moyens dont on dispose ne nous permettent pas en réalité de prendre en charge toute l'étendue de la République et toute notre population. Mais c'est une donnée réelle, il faut la mettre, c'est une donnée sociologique réelle et il faut la mettre en face des Congolais. Aujourd'hui, une des difficultés que nous avons, y compris pour réagir sur cette question de la Calvaire, c'est les moyens logistiques et donc les moyens financiers tout court.
Monsieur le conseiller Daniel Boulungidi, vous avez suivi l'honorable Tinanzabo et Alki Tengue qui viennent d'intervenir. Comment vous réagissez à leurs observations?
Elles sont tout à fait pertinentes et effectivement, il y a quand même une certaine réflexion qui doit être faite. Nous comprenons que le défi est assez important. Mais le gouvernement s'emploie à pouvoir résoudre pour essayer de voir comment on peut chercher à réguler quelques causes qui ont produit les différents effets sur les différents naufrages qu'on a connus.
Mais Alki Tengue a souligné qu'avec la modicité des moyens qu'on a, c'est très difficile.
Il vous souviendra, monsieur le journaliste, je crois que le gouvernement a financé, par exemple, la fois passée, déjà en analysant toutes les causes qui sont à la base des différents naufrages connus dans ce pays, le gouvernement a commencé d'abord par renforcer les capacités après qu'il ait organisé une mission de contrôle technique des embarcations pour voir dans quel état elles étaient. Le gouvernement a financé la formation des agents de l'administration qui sont censés de mettre en place la réglementation sur l'exploitation de la navigation. Et tout récemment, le gouvernement a un jour, deux jours de ce naufrage pour essayer de réguler cette situation, voir dans quelle mesure il faut atténuer les cas de naufrage qui sont constatés dans notre pays. Il a lancé une opération de gilet de sauvetage. Il y a une semaine seulement passée qu'on a lancé l'opération de gilet de sauvetage où on a obligé à toute embarcation de pouvoir disposer d'un minimum de 100 gilets pour arriver à sauvegarder la population en cas de noyade.
Il coûte combien ce gilet, monsieur le conseiller?
Le gilet ne coûte que 25 dollars.
Et il est à la portée de toutes les bourses?
À toutes les bourses et de tout.
Selon vous?
Tout armateur, en principe, qui est censé exploiter la navigation. Ça veut dire qu'il dispose de tous les moyens possibles pour pouvoir faire cette exploitation. Donc il faudrait, on l'impose, au minimum, il doit disposer dans son embarcation sans gilet. Et ça ne coûte que 25 dollars. C'est vraiment le prix minimum possible qu'il faut. Alors, si on se retrouve dans le cas actuel, est-ce qu'il y avait des gilets là-dedans? C'est pourquoi on s'est dit effectivement la réglementation a-t-elle été respectée au niveau de l'embarcation, au niveau de l'Ouganda? Ça, on ne sait pas.
C'est cette parce qu'ici, chez nous, déjà, elle ne l'est pas souvent.
Non, c'est-à-dire que nous sommes en train de tendre actuellement pour essayer de mettre en place tous ces mécanismes pour essayer de sécuriser la population. Parce qu'en dehors de l'embarcation, vous avez les contrôles techniques d'embarcation. En dehors des balisages, vous avez d'abord les minimums qu'on voulait sauver. C'est d'abord au moins avoir des gilets. Parce que même si le cas survenait brusquement, au moins déjà avec les gilets de sauvetage, on pouvait déjà au moins sauver quand même la situation. C'est ça un peu la politique que le gouvernement actuellement est en train de matérialiser.
Alors là déjà vous abordez la deuxième partie, qu'est-ce qu'il faut pour empêcher ce genre de drame. Donc vous venez de parler de l'opération de gilets de sauvetage lancée par le ministère des Transports, ainsi que la formation des agents de l'administration fluviale, tout ça. Mais monsieur le conseiller, quand on prend, on a ce qu'on appelle ici barges, des bateaux de fortune qui desservent le Congo profond, comme on l'appelle. Est-ce que toutes ces personnes-là pourraient avoir des gilets de sauvetage?
Le mécanisme qui a été mis en place pour pouvoir disponibiliser ces gilets, c'est qu'on va les étendre dans toute la province, toutes les provinces de la RDC, là où effectivement la navigation est intense. Et au moins trois contrats qui ont été signés avec le gouvernement et les partenaires privés pour disponibiliser ces gilets de sauvetage dans les différentes entités portuaires au niveau de chaque province. Donc, c'est une opération qui a démarré depuis la semaine passée. Et au moins, tout a été déployé pour que réellement on puisse atteindre tous ces recoins et coins pour les disponibiliser. Parce qu'en principe, l'argument principal qui avait toujours été présenté, c'est que non, on n'a pas la disponibilité, on n'a pas, ces gilets ne se vendent pas sur terrain. Mais le gouvernement a pris les dispositions pour signer ces trois contrats avec trois partenaires privés pour les disponibiliser en répartissant des zones géographiques pour leur disponibilisation au niveau des armateurs.
Alors avant de donner la parole à l'honorable Tinan Zabo, il a tout à l'heure soulevé une question importante. Il dit qu'il n'y a aucun service organisé sur le lac Albert. Qu'est-ce que vous lui répondez?
L'accident s'est passé au port de Toroko, en Ouganda. C'est au niveau de l'Ouganda. Si vous voulez vérifier effectivement qu'il n'y a aucun service organisé au niveau de la RDC, il faut le voir dans l'autre port, c'est au niveau de Mahagi. C'est là qu'il faut voir si effectivement tous ces services...
Et là, c'est organisé, nous avons un
chef de division qui est là, qui a régulé pratiquement toute la normalisation sur le transport. Vous avez un commissaire Lacus qui est là, et vous avez des chefs de poste qui sont là. Tous ces services existent pour pouvoir assurer effectivement la matérialisation de la réglementation sur les transports.
Merci, monsieur le conseiller. Honorable John Tinan Zabo, nous sommes dans la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter ce genre de drame? Il y a Desbi Mubangé 3 qui dit, tel que le gouvernement l'a fait pour les transports par voie routière et aérienne, certaines compagnies de transport maritime, l'Acus et fluvial, pourraient être aussi interdites d'arborer les eaux congolaises parce que leurs bâtiments sont en anciens et ne garantissant pas la sécurité des passagers. À cet effet, le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires, par exemple en achetant des nouveaux bateaux, non seulement pour éviter ce drame, mais aussi un moyen de se procurer des revenus pour enflouer ces caisses, honorable Tinanzabo. Nous sommes dans les solutions.
Oui, avant d'aller dans les solutions, je constate que le conseiller ne connaît pas l'Ituri. Parce que moi, je viens de là. Il ne connaît pas l'Ituri. Quand il parle de Mag, il ne sait pas que l'accident s'est passé dans le territoire du Rhum. Ça n'a rien à voir avec Mag. Donc, le lac Albert est très vaste. Il couvre trois territoires. Mag, Irum et Djougou. C'est très important, il faut qu'il note ça. Et je lui conseillerais d'aller visiter. Parce que quand on est conseiller de ministre au niveau de transport, il faut aider le ministre à comprendre, à gérer, à maîtriser, n'est-ce pas, les voies navigables avec leurs problèmes. Et je vais vous informer que au niveau de lac Albert, il n'y a aucune compagnie de navigation. Il n'y en a pas. Ce sont des navigateurs de fortune.
Des privés qui s'organisent à leur manière.
Ils se débrouillent, des pêcheurs. Ils prennent leur petite barque de fortune. Ils prennent les gens. Et puis, quand il y a le vent, les gens sont noyés. Donc, nous vivons ça là-bas. Alors, rien n'est organisé, je persiste et j'insiste.
Vous avez aussi évoqué dans votre précédente intervention le cas du fleuve et des autres endroits du pays où on connaît ce genre de drame. Là, nous sommes dans les solutions. Le temps ne nous attend pas. Qu'est-ce que vous proposez?
Tout à fait. Il faut que le ministère des Transports prenne ses responsabilités en tant que ministère des Transports. Pas ministère des Transports pour envoyer les agents ramasser de l'argent auprès des motards, de gens de vélo. Parce que c'est ce qu'on voit chez nous, de véhicules et tout ça. Mais un ministère qui garantit, qui sécurise ceux qui utilisent les voies de transport, ceux qui circulent, c'est important. Et pour ça, il faut avoir une politique. Al-Kiteng a parlé de moyens. Ça, c'est un faux débat. Notre pays ne manque pas l'argent. Nous avons l'argent, mais nous ne savons pas gérer ce que nous avons. Et nous ne savons pas transformer ce que Dieu nous a donné en richesse. C'est ça le mal de notre pays. Ça, c'est un autre débat. Peut-être on pourra en revenir prochainement. Mais pour les cas d'espèces, pour les cas de transport dans notre pays, le gouvernement à Kinshasa vient à peine de mettre le bus, n'est-ce pas, pour le transport public. Ça fait quelques mois. Mais le conseiller vient de dire que le ministère, ça fait deux jours ou quelques jours seulement qu'on a envisagé de déployer les gilets de sauvetage. Mais ce ministère a combien d'années? À ce que je sache, moi je suis député, nous avons investi ce gouvernement, ça fait presque trois ans. Deux ans et quelques mois. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on gère le pays, on doit avoir une politique cohérente. Il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut faire. Et les moyens, il faut les définir. Nous sommes députés. Nous ne pouvons pas refuser les requêtes du ministère introduit dans le budget du gouvernement pour sécuriser les Congolais. Vous imaginez, plus de 100 Congolais meurent. Mais moi j'ai appris, quand on a pris un otage, Bettencourt, qui rentre en France, mais le président français vient l'accueillir à l'aéroport, seul. Vous imaginez? Ça n'existe pas chez nous. Il y a des centaines de morts, le président de la République ne dit rien. Non, écoutez, ça ce sont quand même des choses qui peuvent nous aider, même dans notre pauvreté, si pauvres nous sommes. Il faudrait quand même la compassion.
Merci.
De nos dirigeants, pour que le peuple sente qu'il est soutenu, qu'il a des dirigeants qui les aiment. C'est important.
Merci.
Et c'est le moindre des choses. Ça ne coûte rien, ça.
Merci, honorable. Al-Kitenge, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de Bukavu au sud Kivu.
Robert Bahome de Bukavu au sud Kivu. Je pense que c'est encore difficile d'éviter de faire catastrophe en RDC tant que la loi et la réglementation qui régissent le secteur des transports en général et des transports fluviales ou maritimes en particulier ne seront jamais respectées et par les services de transport et par les exploitants de ce secteur.
Al-Kitenge, est-il difficile de mettre fin à ce genre de drame pour ne prendre que le cas de la RDC?
Alain Yebung, n'en déplaise aux députés, nous n'avons pas la capacité aujourd'hui d'administrer l'étendue de la République.
Nous n'avons pas les moyens financiers pour le faire. Une grande partie de notre République est sous-administrée, sinon pas administrée du tout. Il arrive à nos frères, à nos sœurs, et là où ils sont, le hasard au quotidien. Et donc, si notre capacité de travail est encore déterminée par les moyens dont on dispose et par le type d'organisation que nous avons, nous ne saurons pas donner des réponses effectives, que ce soit dans le cadre des transports en ce moment ou dans les autres cas. Alain Yung, je voudrais que tu retiennes une fois pour toutes, et je parle à cœur ouvert à mes frères et sœurs congolais, il faudrait qu'on connaisse la vérité de notre situation pour qu'on soit en mesure de planifier d'en sortir. Il ne faut pas vendre des illusions aux Congolais. Aujourd'hui, il faut décentraliser. Il faut absolument décentraliser. Le piège aujourd'hui dans la décentralisation, c'est de dire qu'on n'a pas les moyens pour la décentralisation. Non, c'est faux. La décentralisation va créer les moyens de leur, de son développement. Aujourd'hui, la question c'est de dire, est-ce qu'on se contente de la situation que l'on a aujourd'hui ou on essaye autre chose? Autre chose, ça veut dire prendre en charge les Congolais là où ils sont. Donc aujourd'hui, c'est illusoire et mensonger de dire aux gens qu'en changeant simplement des hommes, on va résoudre le problème de la République. Non, les mêmes causes provoquant les mêmes effets, nous aurons exactement les mêmes résultats, les uns plus beaux que les autres, mais en tout cas la même taille. Il est important qu'on se rende compte qu'il faudrait que nous prenions en charge la gestion administrative et au quotidien de notre République. Et dans le cadre des moyens financiers dont nous disposons, ce n'est pas faisable. Le député parle du potentiel. Oui, mais le potentiel, tant qu'il est sous-sol, on ne peut rien en faire. Aujourd'hui, le défaut est politique. Si les hommes politiques peuvent s'entendre sur l'essentiel de comment nous allons vivre ensemble dans ce pays, nous pourrons avoir la capacité de regarder les véritables défis, en l'occurrence les défis financiers et économiques. Ils passent leur temps à discuter des questions de politique et d'occupation de poste. Et ça, c'est complètement inacceptable.
Alors, Alkitenge, le conseiller Daniel Bulungidi a parlé des quelques solutions que propose déjà, que met en pratique le ministère des Transports, l'opération de gilets de sauvetage, des formations à gauche et à droite. Comment vous les analysez?
C'est une réaction à la situation qui est en face de nous. Mais lorsque vous regardez la plénitude des autres situations aussi catastrophiques que cela qui se présentent au quotidien face aux citoyens congolais, vous vous rendez bien compte que les réponses circonstancielles ne résoudront pas les problèmes fondamentaux du pays. Il est important que dans le secteur des transports, comme dans tous les autres secteurs, en l'occurrence celui de la santé, où nous avons des gens qui meurent encore de choléra et de peste, et dans le secteur de l'enseignement, où 70% de notre population meurt d'ignorance, ne sait ni lire ni écrire, et ça c'est des réalités au quotidien, il est important que nous ayons un plan. Et pour ça, il est bon de poser les bonnes questions. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va commencer à donner de bonnes réponses. Moi, je voudrais profiter d'une catastrophe comme celle-ci pour rappeler encore à la mémoire des Congolais l'intérêt de regarder le pays, non pas aujourd'hui, mais dans 10, dans 15, dans 20, dans 30 ans. Sinon, nous allons nous plaindre de la même manière. Nos enfants vont devenir ministres les uns après les autres et nous allons les griller. Et c'est l'exercice auquel nous excellons et il n'est pas porteur, il n'est pas productif.
Alors, le temps que nous ayons ce plan dont vous parlez, Alkitenge, et donc vous donnez raison à Robert de Bukavu, qu'on a suivi tout à l'heure, qui pense qu'il est difficile de mettre fin à ce drame.
Mais c'est bien s'il dit la vérité. Et il ne faut pas se faire l'illusion des bureaux climatisés de Kinshasa pour penser que la République est ainsi faite. La République est dans un état précaire. Quand on dit que nous sommes un pays fragile, ça a tout son sens. Et il est important que cette fragilité sorte de sa réalité par l'intelligence des Congolais. Il faut poser les bonnes questions. Il faudrait que nous comprenions que la gestion de la République n'est pas qu'une question politique, c'est une question de société. Il faudrait que nous nous libérions de l'emprise politique de ce pays. Ce pays n'a pas que les problèmes politiques, c'est une République à part entière où la population doit être prise dans son ensemble. Tous les Congolais ne sont pas à Kinshasa, tous les Congolais ne sont pas dans les grandes villes. Et quand ce genre de situation arrive, nous nous souvenons qu'il y a de nos frères qui vivent dans des conditions de précarité avancées, et que nous avons des ambassadeurs qui n'ont même pas les moyens de réagir, et que nous avons des responsables de chefferie qui n'ont même pas la capacité de donner le moindre soin ou le moindre soutien à nos compatriotes.
Merci. Merci Alki Tengue. Je rappelle qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Monsieur le conseiller Daniel Boulongidi, vous êtes conseiller fluvial et lacustre du ministre des Transports et Voies de Communication du gouvernement central. On va déjà conclure. Peut-on espérer qu'avec tout ce que le ministère a mis en jeu, est-ce possible d'éviter ce genre de catastrophe dans pratiquement tous les moyens de transport, pas seulement lacustre?
Il y a possibilité de pouvoir le faire. Mais il faudrait travailler sur les différents axes sur lesquels, effectivement, il faut mener toute la politique pour essayer de remettre les choses à la normale. Il y a un problème d'abord du type d'embarcation, comme on vient de le dire. Vous savez, il y a des embarcations qui sont conçues par-ci, par-là, sans pour autant respecter les normes. Vous connaissez bien, il y a aussi des baleinières qui circulent le long de nos cours d'eau, sans pour autant qu'elles soient dans des conditions techniques acceptables. Mais il y a aussi le deuxième volet, c'est un problème de balisage. Nous sommes déjà en train d'être appuyés par des partenaires extérieurs comme l'Union européenne, qui est en train déjà de financer à raison de 60 millions pour pouvoir faire le balisage du fleuve ainsi que de la rivière Kasaï. Il y a aussi la Banque mondiale avec le programme de transport multimodal qui est en train de financer aussi le balisage sur les deux axes comme Louloua. Mais ce sont des actions qui sont tentées d'être déployées pour le moment. Et au niveau de l'administration, comme on l'a dit, vous avez des formations que le gouvernement a financées déjà pour essayer de réguler un peu tous ces problèmes de déficit de formation qu'il y a au niveau de l'administration. Mais aussi au niveau du personnel navigant, vous avez notre centre de formation qui est déjà pratiquement, qui a déjà ouvert ses portes pour pouvoir essayer de remettre tout le personnel à niveau pour qu'ils sachent un peu comment assurer la navigation sur le fleuve. Voilà un peu les différents axes sur lesquels le gouvernement est tenté de travailler pour quand même arriver. Merci. Mais l'action gilet, par exemple, en fait, c'est une action qui vient juste pour essayer de réguler en attendant que toute la situation soit mise en place. Merci. Parce que même pour les unités fluviales, vous avez des bateaux qu'on colloquait en cours de réhabilitation que le gouvernement a financé, ainsi que le bateau Bungu, qui est actuellement ces deux convois qui sont attendus pour que réellement on essaie de mettre quand même des conditions plus sécurisées au niveau de la navigation sur le fleuve pour le transport des passagers.
Honorable Tinanzabo, pensez-vous qu'on pourrait un jour mettre fin à ce genre de drame en RDC?
Nous sommes le seul pays au monde où, quand une centaine de personnes meurent, de compatriotes, les gens minimisent. On veut même revoir les chiffres à la baisse pendant qu'il y a des morts. Nous sommes le seul, c'est une exception. Mais hélas, mon intervention dans votre émission d'aujourd'hui, c'est une interpellation au ministre de transport. Il faut qu'il revoie sa politique de gestion des transports. S'il est incapable, il n'a qu'à démissionner. Et là, je l'ai dit comme député. Vous savez, on ne peut pas chaque fois utiliser des moyens de saupoudrage pour essayer de justifier des catastrophes. Nous sommes ici en face de catastrophes qui se répètent. Ça a commencé dans des fleuves, plusieurs voies navigables, même des routes. Il faut qu'il ait une politique cohérente qui va aider ce pays à avoir le minimum de dégâts en termes de navigation, que ce soit sur les voies routières, aériennes et fluviales ou lacustres. Il doit connaître le pays, connaître les réalités de chaque coin. Il doit aussi connaître le lac Albert, parce que je constate qu'il ne connaît pas le lac Albert.
Merci honorable Alki Tengue, votre conclusion.
Il est indécent de faire de la récupération politique lorsqu'il s'agit des vies humaines perdues. Et je pense simplement que lorsqu'on parle de la politique, il faut surtout se rendre compte qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Et quand on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens, on se retrouve dans la situation dont je vous parlais tout à l'heure. La République n'a pas les moyens d'offrir à sa population des conditions de vie correctes. Il est important qu'on pose cette question au centre de la gestion du pays. Et encore une fois, ceci n'est pas un débat politique, c'est un débat de société, monsieur Alain Gironc.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Guy Maté, Samuel Kachak, Dieudonné Nyangasa, Alain Goy qui m'ont aidé à vous présenter cette émission sous la supervision de Péléquipé Lamondo, Alain Rung Mouchige, je vous l'ai présenté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi. Au revoir.